L'apôtre Pierre fut miraculeusement délivré de sa prison la nuit qui précède à son exécution. Le roi Hérode, qui avait déjà fait mourir par l'épée l'apôtre Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, avait fait arrêter Pierre pour le faire décapiter lui aussi. Mais l'église de Jérusalem priait sans cesse pour lui, et un ange du Seigneur alla sortir Pierre de prison. Au matin, il y eut une grande agitation parmi les soldats, qui ne s'expliquaient pas la disparition de leur prisonnier. Hérode, déçu dans son attente de donner Pierre en spectacle au peuple, ordonna l'exécution des gardes et quitta Jérusalem pour se rendre à Césarée, son lieu de résidence. Il y eut à cette époque conflit entre Hérode et les habitants de Tyre et de Sidon. Mais ces derniers, pour des raisons économiques, se décidèrent d'un commun accord à venir à la cour demander la paix. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et harangua publiquement la foule. À la fin de son discours, le peuple se mit à crier « C'est la voix d'un dieu et non celle d'un homme ». À l'instant même, un ange du Seigneur frappa le roi d'une maladie mortelle et il mourut peu après, rongé de vers. Après la mort de ce puissant persécuteur de l'Église, la parole de Dieu fit de grands progrès et le nombre des disciples ne cessait d'augmenter. Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission à Jérusalem, retournèrent à Antioche, emmenant avec eux le jeune Jean-Marc. Marc, qui allait devenir l'auteur de l'évangile qui porte son nom, était le cousin de Barnabas. En arrivant à Antioche, les deux hommes reprirent leur travail de prédication et d'enseignement auprès de la population fort mélangée de cette métropole syrienne, où un nombre croissant de païens apprenait à connaître Jésus. Il y avait à la tête de cette assemblée des hommes remarquables, des prophètes et des docteurs. Parmi eux se trouvait, aux côtés de Barnabas et Saul, un certain Manaen, qui venait d'un milieu corrompu. Cet homme, en effet, avait été élevé à la cour avec Hérode Antipas, le tétrarque, le meurtrier de Jean-Baptiste. Mais la grâce de Dieu en avait fait non seulement un disciple de Jésus, mais encore l'un des chefs de l'église d'Antioche. Dieu avait en vue pour cette assemblée une tâche importante. Elle allait devenir le centre missionnaire d'où partirait la parole de Dieu pour les nations païennes. À cette époque, pendant que l'on célébrait le culte du Seigneur en jeûnant et priant, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Aussitôt les frères, après avoir jeûné et prié pour les deux missionnaires, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul s'en allèrent, envoyés par l'Esprit, pour gagner la côte et s'embarquer à Séleucie, ville maritime qui servait de port à Antioche. Ils avaient Jean-Marc avec eux pour les aider. De là, ils firent voile pour Chypre, île natale de Barnabas. Dès qu'ils furent arrivés à Salamine, sur la côte orientale, ils se mirent à annoncer l'Évangile dans les synagogues. Puis ils traversèrent l'île d'est en ouest jusqu'à Paphos, capitale de cette province romaine et résidence du gouverneur, le proconsul Sergius Paulus. Il y avait auprès de ce magistrat un certain faux prophète juif nommé Bar-Jésus, aussi appelé Élimas, le magicien. Le proconsul, homme d'une grande intelligence, fit appeler Barnabas et Saul et demanda à entendre la parole de Dieu. Mais le faux prophète leur résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, rempli du Saint-Esprit, le regarda en face et lui dit « Ô homme, rempli de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable et ennemi de la justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies de Dieu? Déjà la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras plus la lumière du soleil. » À l'instant même, Élimas fut frappé et sa vue s'obscurcit. Se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un pour le conduire. Voyant ce qui était arrivé, le proconsul crut, étant vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Dès ce moment, Saul se fit appeler par son surnom romain, Paul. Nous continuerons demain le récit de ce premier voyage missionnaire.